Daf Nun Chet Amud Alef, en haut du Hamoud. On a vu dans la Mishnah qu'une femme ne doit pas sortir pendant Shabbat dans la rue avec un kavoul. Donc la Mishnah a dit Velo ve kavoul l'irshut arabim. Rabbi Yanaï s'était posé la question concernant ce kavoul, quelle était l'explication de ce terme de kavoul? Il a dit qu'il y avait deux possibilités d'expliquer le terme de kavoul, soit que c'est kavla de avda, c'est une marque, un signe que l'esclave portait pour montrer qu'il était esclave, ou alors est-ce que kavoul, ça peut vouloir dire aussi un chapeau que les femmes portaient sous leur voile, sous le voile qui couvrait leurs cheveux. Et donc Rabbi Yanaï ne savait pas comment expliquer ce terme de kavoul qui apparaît dans la Mishnah, et la Gemara a rapporté la première explication de Rabbi Abaou qui dit qu'il s'agit du chapeau que les femmes portent. Et la Gemara va rapporter maintenant une autre explication. Où Shmuel Amar, et Shmuel a dit Kavla de Avdat Nan, on parle ici de cet insigne, cette marque que les esclaves portent sur eux pour montrer qu'ils sont esclaves. C'est de ça qu'on parle dans la Mishnah. Alors Tosfot pose deux questions concernant cette explication. Tosfot demande d'abord s'il s'agit effectivement de l'insigne que les esclaves portent. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle plus pour les femmes esclaves, pour les servantes, que pour les hommes esclaves? Et Tosfot répond à ça que, comme dans la Mishnah suivante, la Mishnah va nous dire qu'on a le droit de sortir avec ça dans la cour. On n'a pas le droit de sortir avec ça dans le Rishut Arabim, mais dans le Khatser, on a le droit de sortir avec. Et que dans cette Mishnah, on va citer encore autre chose avec quoi on a le droit de sortir dans le Khatser. Il s'agit de la perruque, Péanochrit. Comme la perruque, c'est quelque chose qui est porté par les femmes, donc on a parlé aussi de kavoul dans le contexte des femmes, même si effectivement ce din s'applique aussi aux esclaves hommes. Deuxième question de Tosfot, c'est justement pourquoi est-ce qu'on a le droit de porter cet insigne dans la cour, contrairement aux autres choses, aux autres objets qui ont été cités dans la Mishnah, aux autres bijoux qui ont été cités dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de porter ni dans le Rishut Arabim ni dans la cour. C'est-à-dire que si ce kavoul c'était le chapeau que les femmes portent, ça on avait déjà donné une explication. Pourquoi est-ce que les chachamim ont permis de le porter dans la cour? Parce que ils voulaient quand même permettre à la femme de se faire un petit peu jolie chez elle, dans la cour. Et même s'ils ont interdit les autres bijoux, mais ils ont permis de porter ce chapeau. Mais s'il s'agit de l'insigne que les esclaves portent, Agmara ne comprend pas pourquoi est-ce que Tosfot ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est permis de le porter dans la cour. Tosfot répond que les Chachamim ont permis de le porter dans la cour pour tranquilliser le maître, parce que si il ne portait pas du tout cet insigne, donc dès que l'esclave ferait la moindre chose qui déplaît à son maître le soupçonnerait de vouloir se rebeller. Et donc ça créerait des disputes. Donc pour le tranquilliser, les Chachamim ont permis de sortir avec cet insigne dans la cour pour qu'il puisse montrer qu'il est bien son esclave et qu'il ne se rebelle pas. La Gemara demande où Amar Shmuel achi. Est-ce que Shmuel a dit une telle chose? Amar Shmuel yotze evet bechotam shebetzavaro, avalo bechotam shebiksuto. Pourtant Shmuel a dit qu'un esclave a le droit de sortir avec l'insigne qu'il porte autour du cou, mais pas avec l'insigne qu'il porte sur son vêtement. Donc, alors, comme on verra plus loin dans la Gemara, quand on parle ici d'insigne, c'est un insigne qui est fait en tit, en argile. On verra après dans la Gemara que s'il est fait en métal, le din sera différent. Et Shmuel dit qu'il a le droit de sortir donc avec cet insigne d'argile, s'il le porte autour du cou, mais pas s'il est attaché à son vêtement. Et donc ça contredit ce que Shmuel a dit précédemment, puisqu'il a dit que la kavoul de la Mishnah, c'est kavla de avda, donc c'est l'insigne de l'esclave, et c'est interdit, et on comprend qu'il n'y a pas de différence entre celui qu'il porte autour du cou et celui qui porte à son vêtement. Agmara répond, la kashia, c'est pas contradictoire, ha de avad le rabbe, ha de avad yu le nafshe. Quand Shmuel a dit qu'il a le droit de sortir avec l'insigne s'il le porte autour du cou, c'est si c'est son maître qui le lui a fait. Comme c'est son maître qui le lui a fait, donc il ne risque pas de l'enlever, parce qu'il a peur de l'enlever, si son maître voit qu'il l'a enlevé, il va penser qu'il se rebelle, qu'il veut faire croire qu'il est libre, et donc son maître risque de le sanctionner, donc il ne risque pas de l'enlever. Par contre, dans la Mishnah, on parle d'un insigne qu'il s'est fait lui-même, l'esclave, et donc il n'a pas peur de l'enlever, et risque de l'enlever dans la rue, et de le porter sur une distance de 4 amot. L'Agmara demande, Bemaï ou Kimta Léa de Shmuel, de Avad le Rabbé, comment est-ce que tu as interprété le dîne de Shmuel qui a fait une différence entre l'insigne qu'il porte autour du cou et celui qu'il porte à son vêtement? Tu as dit qu'il parle du cas où c'est son maître qui lui a fait. Alors, Bechotam chez Beksuto à Milo, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de sortir avec l'insigne sur son vêtement? Puisque là aussi, on devrait dire qu'il a peur de l'enlever, que son maître l'attrape et qu'il le punisse. Agmara répond, Dilma Mifsak ou Mirtat ou Mikapelle ou Machitle à Kitfe. De peur que l'insigne tombe, se casse, et qu'il ait peur que son maître l'attrape sans son insigne et qu'il pense que c'est lui qui l'a enlevé pour faire croire qu'il était libre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir cacher l'endroit de l'insigne, l'endroit du vêtement où il devrait avoir l'insigne, pour ne pas que on puisse remarquer qu'il ne l'a pas. Et donc, il va replier son vêtement, c'est-à-dire qu'il va relever les pans de son vêtement, il va le replier sur ses épaules, et il va porter donc ce vêtement sur les épaules, autour du cou. Or, ça, c'est assourd, il n'a pas le droit de sortir de cette manière-là dans la rue, parce que là, il ne s'en sert pas comme vêtement, il ne le porte pas comme un vêtement, c'est pas non plus un ornement, c'est pas non plus quelque chose qui sert à faire beau. Donc là, c'est Otsa, qui est Rav Yitzhak Bar Yosef, comme Rav Yitzhak Bar Yosef, d'Amar Rav Yitzhak Bar Yosef Amar Rabbi Yochanan, parce que Rav Yitzhak Bar Yosef a dit au nom de Rabbi Yochanan, a yotze betalit mekupelet ou menachat lo al ketefav beshabbat, chayav chatat, que celui qui sort avec un vêtement replié et posé sur ses épaules pendant Shabbat, il est chayav chatat. Vechiha d'Amar le Shmuel Rav Chinana Bar Shila, comme ce que Shmuel a dit à Rav Chinana Bar Shila, Kulhu Rabbanan de Beresh Galuta, lo lifku beservele chatime, les varminach de lo kabde alech de Beresh Galuta. Donc, Shmuel a dit à Rav Chinana Bar Shila que tous les chachamim, tous les rabbanim de chez Resh Galuta c'était celui qui dirigeait les Bnei Israël en Babel, donc tous les chachamim qui appartenaient à la maison de Resh Galuta, ils avaient l'habitude de porter donc eux aussi un insigne sur leurs vêtements pour montrer qu'ils appartenaient au Beddin de Resh Galuta. Et a dit qu'ils n'ont pas le droit de sortir dans la rue pendant Shabbat avec cet insigne sur leurs vêtements, sur leur tunique. Pourquoi? Parce que là aussi, on craint que ça tombe, ça se casse, et qu'ils aient peur donc que on les attrape sans leur insigne et que donc le Resh Galuta il leur en tienne rigueur. Donc, ils risquent de replier leurs vêtements et donc de porter dans la rue. En dehors de toi, il dit en dehors de toi, Rav Chinana Bar Shila, t'as le droit de sortir avec pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que les gens de chez Resh Galuta ne te tiennent pas rigueur si tu sors sans ton insigne. Donc, tu ne risques pas d'avoir peur et tu as le droit de sortir avec puisque tu risques pas de replier ton vêtement. Goufa, donc l'Agma revient à cet enseignement de Shmuel. Amar Shmuel, Shmuel a dit. Qu'un esclave a le droit de sortir avec l'insigne qu'il porte autour du cou, mais pas avec un insigne qu'il porte sur son vêtement. Tanya Namiachi, c'est également ce qu'on enseigne à la Braïta. Yotze Aeved Bechotam Shebet Savaro, Avalo Bechotam. Donc la Braïta dit aussi que un esclave a le droit de sortir avec un insigne qu'il porte autour du cou, mais pas s'il est attaché à son vêtement. Urminu, la Gemara objecte. Il y a une autre braïta qui dit, le yetzé evet bechotam chez Betsavaro, velo bechotam chez Bixuto, que l'esclave n'a pas le droit de sortir avec l'insigne qu'il porte autour du cou, ni avec l'insigne qu'il a attaché à son vêtement. Zevazé en mekablin touma. Et la braïta dit que ni l'un ni l'autre ne reçoivent la touma. C'est-à-dire que comme c'est pas un bijou, c'est pas fait pour faire joli, donc ça ne reçoit pas la touma en tant que tarchit. Pour recevoir la touma, il faut soit que ça soit un objet d'utilisation, un keli, soit que ce soit un tarchit. Or, là, c'est pas un tarchit, c'est pas fait pour le faire beau, au contraire, c'est quelque chose qui le rabaisse, puisque ça montre qu'il est esclave, et c'est pas non plus un objet d'utilisation, il l'utilise pas, donc ça ne reçoit pas la touma. Velo bezouk chez Betsavaro, et il n'a pas le droit non plus de sortir dans la rue avec une cloche autour du cou. Aval yotzeu bezouk shebeksuto. Par contre, il peut sortir avec une cloche qui est attachée à son vêtement. On verra plus loin dans la Gemara pourquoi. Et ces cloches, elles sont Mekabel Touma, peu importe si c'est une cloche qu'il porte autour du cou ou attachée à son vêtement, c'est Mekabel Touma parce que ça, c'est un tarchit, c'est quelque chose qui est fait pour comme ornement, comme bijou. Donc c'est Mekabel Touma. Velo tetse behema lo bechotam chez Betsabara, velo bechotam chez Biksuta. Et un animal n'a pas le droit de sortir avec un insigne qui est autour de son cou ou à son vêtement. Ça, c'est pour les chevaux. On leur mettait des sortes de manteaux pour ne pas qu'ils se salissent. Donc, s'ils ont un insigne qui est attaché à leur manteau, ils n'ont pas le droit de sortir avec dans la rue pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que, comme on avait vu dans le périple précédent, parce que ça donne l'impression que ils vont, on va pour les vendre. Alors, on avait vu ça pour les cloches, mais c'est valable aussi pour l'insigne. Velo bezouk chez Biksuta, velo bezouk chez Betsavara. Et elle n'a pas le droit non plus de sortir avec une cloche sur son vêtement, ni avec une cloche autour de son cou. Là aussi, comme on a dit, parce que c'est comme ça qu'il les a amenés pour les vendre. Donc, ça peut donner l'impression qu'il est en train d'aller pour les vendre. Zé vazé en mekablin touma. Et ni l'un ni l'autre ne reçoivent la Touma. Donc ni l'insigne ni la cloche, peu importe que ce soit autour du cou ou sur le vêtement, c'est pas Mekabel Touma, parce que même ce qui est un tarchit, même ce qui est fait pour faire beau l'animal, mais le tarchit de l'animal ne reçoit pas la Touma. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans cette braïta que un esclave n'a pas le droit de sortir avec un insigne ni autour du cou ni sur son vêtement. Donc ça contredit la braïta précédente qui disait que il a le droit de sortir avec l'insigne autour du cou mais pas sur son vêtement. Lema hadeavad lerabe hadeavad. Est-ce qu'on va dire là aussi, comme on avait répondu précédemment par rapport à l'explication de Shmuel dans la Mishnah, que la braïta qui permet quand il l'a autour du cou, c'est si c'est son maître qui lui a fait et donc il risque pas de l'enlever parce qu'il a peur que son maître l'attrape sans l'insigne. Et l'autre braïta qui est interdit dans tous les cas, c'est quand il l'a fait lui-même, et donc il a pas peur de l'enlever, il risque de l'enlever et de le porter dans la rue. La Gemara répond, l'eau. Non. Idi veidi de avad le rabbe. Dans les deux braïtot, on parle d'un insigne que c'est son maître qui lui a fait. Vekan bechel matechet, vekan bechel tit. Et une braïta parle d'un insigne qui est fait en métal, et l'autre d'un insigne qui est fait en argile. Donc celui qui est fait en métal, il y a un risque qu'il le porte, même si c'est son maître qui lui a fait, parce que si il se décroche et qu'il tombe, donc il risque de le porter pour le récupérer, parce que comme ça a de la valeur, il a peur que son maître donc le lui réclame, donc il va le porter pour le lui ramener. Donc c'est interdit dans tous les cas. Alors que l'autre Braïta parle d'un insigne qui est fait en argile. Et là, si il tombe, il se casse. Donc, il n'y a rien à récupérer. Et donc, si c'est pour ça qu'on ne craint pas qu'il le porte. D'un autre côté, on ne craint pas non plus qu'il l'enlève lui-même. Donc, il n'y a pas de risque s'il le porte autour du cou. Par contre, si c'est sur son vêtement, comme on avait dit plus haut, il risque de replier son vêtement et de le porter comme ça, ce qui est assourd. Alors, Rashi explique que dans la Mishnah, quand on a parlé de Kavoul, on pouvait pas dire qu'il s'agissait d'un insigne qui était fait en métal, et que c'est pour ça que c'est assourd dans tous les cas, parce que a priori, la Mishnah parle d'un insigne ordinaire qui était fait en argile. Et donc, s'il se casse, on n'est pas makpid. Alors que ici, dans la Braïta, comme on va voir par la suite, on prouve de la suite de la Braïta qu'on parle ici d'un insigne en métal. Donc, on parle d'un cas particulier. C'est pas le cas général, mais on parle d'un cas particulier. La Gemara dit, Ukde Rav Nachman Amar Rabba Bar Avuha, et comme Rav Nachman a dit au nom de Rabba Bar Avuha, Davar Amakpid Alav Rabo En Yotzin Bo, si c'est quelque chose pour lequel le maître est makpid, ça veut dire que s'il le perd, il va lui en vouloir, donc il n'a pas le droit de sortir avec, parce que si ça tombe, il risque de le ramasser pour le lui rapporter et donc le porter dans la rue. Par contre, si c'est quelque chose sur lequel le maître n'est pas matpide, il lui en voudra pas s'il l'a perdu, parce que ça a pas de valeur. Donc il a le droit de sortir avec. Achinami Mistabra, l'Agmara dit, c'est logique de dire que cette braïta parle effectivement d'un insigne en métal, mais des katanes zevazé en mekablin touma, puisque on a dit dans la braïta que dans tous les cas, cet insigne n'est pas mekabel touma. Donc l'Agmara dit, Iyamard bishlama shel matechet. Alors, ça va bien si tu dis que il s'agit d'un signe en métal. On comprend ce que la Mishnah nous dit, ce que la Braïta nous dit. Hanehu delo mekablé touma, akelim didou mekablé touma. C'est seulement les insignes qui sont faits en métal qui ne sont pas mekablé touma. Par contre, si c'était des objets qui étaient faits en métal, des ustensiles en métal, eux sont mekablé touma. Donc, la Braïta vient nous préciser que cet insigne qui est fait en métal, c'est pas un keli, donc c'est pas mekabel touma. Et là, il y a marre bechelti nan, mais par contre, si tu dis que la Braïta parle d'un insigne qui est fait en argile, ané ou delo mekabel touma, akelim didou mekabel touma, alors ça voudrait dire que c'est seulement parce que c'est l'insigne que c'est pas mekabel touma, mais si c'était des ustensiles qui étaient faits en argile, ça serait mekabel touma. Ve'al tania, pourtant c'est un Braïta, clé avanim ou clé glalim, ou clé Adama en mekablin touma, l'eau midivre Torah v'al midivre sofrim. C'est une braïta qui dit que des ustensiles qui sont faits en pierre, ou des ustensiles qui sont faits en glalim, c'est-à-dire avec des excréments d'animaux, donc séchés, ou clé Adama, ou des ustensiles qui sont faits avec de la terre, ou de l'argile, ne sont pas mekablin touma, ni minatora, ni midérabanan. Alors quand on parle ici d'ustensiles en argile, c'est pas clé, il y a une différence entre clé Adama et clé Kherès, même si les deux c'est de la terre, donc éventuellement de l'argile. Mais clé Adama, c'est s'ils n'ont pas été, on les a pas fait cuire dans un fourneau, alors que clé Kherès, ils ont été cuits dans un fourneau, donc clé Adama ne sont pas Mekabel Touma, alors que clé Kherès sont Mekabel Touma. Donc l'Agma dit, donc on voit d'ici que de toutes les façons, les ustensiles qui sont faits en argile sans être cuits dans un fourneau ne sont pas Mekabel Touma. Et la Shma Mina Shel Matechet, Shma Mina. Donc on peut déduire de là que dans cette Braïta, on a parlé d'un signe en métal. Effectivement, c'est ce qu'on peut déduire d'ici. À Marmar, on revient donc sur un des dénimes qui a été cité dans cette Braïta. Velo Bezug chez Betsavaro, Avaliotse ou Bezug chez Bixuto. Donc on a dit que l'esclave ne peut pas sortir avec une cloche autour du cou, mais il peut sortir avec une cloche qui est attaché à son vêtement. Agmara demande Zouk chez Betsavaro à Maïlo. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas sortir dans la rue avec une cloche autour du cou? Dilma Mifsig va télétouiller. Parce qu'on craint que ça se détache et que ça tombe, et il risque de le transporter dans la rue. Zouk chez Bixutonami, il rouge Dilma Mifsig va télétouiller. Agmara demande, mais alors, s'il est attaché à son vêtement aussi, on devrait craindre que ça se détache et qu'il le transporte. Agmara répond, Acha bema askinan de micha bemumcha. Ici, de quoi il s'agit? Il s'agit de cloches qui sont tissées avec le vêtement, et donc ça risque pas de se détacher. Donc, des Ravuna Bered Rav Yoshua, comme Ravuna Bered Rav Yoshua, d'Amar Ravuna Bered Rav Yoshua, Kol Shehu Harug Lo Gazru. Ravuna Bered Rav Yoshua dit que tout ce qui est tissé, les Chachamim n'ont pas interdit de sortir avec dans la rue. Alors, on en avait déjà vu ce digne de Ravuna Bered Rav Yoshua dans le Daf Nun Zayin Amud Alef, mais là-bas, c'était tout à fait dans un autre contexte. Là-bas, on parlait des fils que les femmes avec lesquels les femmes attachaient leurs cheveux, et c'était par rapport au problème de Khatitsa, que ce qui était tissé ne posait pas de problème de Khatitsa, donc elles avaient le droit de sortir avec dans la rue parce que elles ne l'enlèvent pas même pour faire la dvila. Et là, on le rapporte tout à fait dans un autre contexte, mais Tosfot explique que de la manière dont Ravuna Bered Rav Yoshua s'est exprimé, quand il a dit Kol Shehu Harug, ça veut dire effectivement qu'il parle aussi de ce sujet. Donc il a énoncé une règle qui, en fait, comprend deux sujets complètement différents. Amarmar, lo tetse behema lo bechotam chez Betsavara, velo bechotam chez Biksuta, velo bezug chez Betsavara, velo bezug chez Biksuta, zevaze en mekablin touma. Donc on revient à une autre partie de cette braïta. On a dit qu'un animal n'a pas le droit de sortir ni avec un insigne qui est autour du cou, ni avec un insigne qui est sur son vêtement, ni avec une cloche qui est autour de son cou, ni avec une cloche qui est attachée à son vêtement, et tous ne sont pas Mekabel Touma. La Gemara demande Vezouk de Behema et Mekabelin Touma, mais est-ce que la cloche des animaux ne reçoit pas la Touma? Urminru, la Gemara objecte, Zouk Shel Behema Tmea, Veshel Delet Teora. Donc on a une braïta qui dit que la cloche d'un animal reçoit la Touma, alors que la cloche qu'on accroche à la porte, elle est Teora. Pourquoi? Parce que la porte, c'est Mechoubar, la Karka, ça fait partie de la maison, donc c'est pas un Keli, c'est tout ce qui est Mechoubar, la Karka, tout ce qui est attaché, lié au sol, fixé au sol, c'est pas un Keli, donc c'est pas Mekabel Touma. Et cette cloche qui est faite pour la porte, ça s'annule à la porte, donc c'est pas Mekabel Touma non plus. Sheldelet v'asaou la behema tmea. Donc la Braïta continue et dit, si c'était une cloche qui à l'origine était faite pour la porte, mais il l'a faite maintenant, c'est-à-dire que il l'utilise pour la bête, elle reçoit la Touma. Shel behema v'asaou la delet afalpi shechibro la delet v'kavo me'asmerim tamé. Par contre, l'inverse, si c'était fait au départ pour l'animal et que il l'a destiné à la porte, même s'il l'a fixé à la porte, même s'il l'a attaché à la porte et fixé avec des clous, ça reçoit quand même la Touma. Ça veut dire que si c'était déjà tamé, ça garde sa Touma, et ça peut encore recevoir la Touma. On considère toujours ça comme un keli et pas comme quelque chose qui est mechoubar la karka. Et la Braïta explique, chez kol akelim yordim l'idé tumata me marchava, ven olim l'idé tumata me. Parce que tous les ustensiles peuvent recevoir la Touma simplement avec la pensée. On avait déjà vu ça plus haut. La Gemara avait rapporté que cette Braïta, cette règle, que kol akelim yordim l'idé tumata me marchava, ven olim l'idé tumata me. On avait expliqué que ça veut dire que un objet, même s'il n'est pas terminé, si on décide de l'utiliser tel quel, il suffit de la penser pour que ça reçoive la Touma. Donc là aussi, quand il a pensé l'utiliser pour l'animal, ça lui donne de la Touma, même s'il n'a pas fait un acte, parce que l'acte de simplement l'attacher, ça s'appelle pas un acte, parce qu'il n'a pas fait de transformation dans l'objet lui-même. La cloche n'a pas changé, simplement il l'a attachée à la bête au lieu de l'attacher à la porte. Mais par contre, pour perdre son statut de quelque chose qui peut recevoir la Touma, de quelqu'un qui peut recevoir la Touma, ça ne perd ce statut que s'il a fait une transformation. C'est-à-dire que si c'était déjà un Keli, et que finalement il veut le changer, et que la nouvelle utilisation qu'il veut en faire, il doit encore travailler cet objet, mais malgré tout, ça continue à recevoir la Touma tant qu'il n'a pas fait un acte pour montrer qu'il n'avait pas l'intention de continuer à l'utiliser tel quel. Donc, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas de cette Braïta? On voit que la cloche d'un animal reçoit la Touma, contrairement à ce qui est écrit dans la Braïta, ce qu'on avait vu dans la Braïta précédente, qui disait que la cloche de l'animal ne reçoit pas la Touma. Donc, ma réponse, la Kashia. C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que dans la deuxième braïta, on parle d'une cloche qui a un battant, donc c'est-à-dire qui fait du bruit. Ça, c'est effectivement un keli. Alors que dans la braïta précédente, on parlait d'une cloche qui n'a pas de battant, et donc elle n'est pas considérée comme un keli. La Gemara demande Manachar. Elle dit, mais quoi qu'il en soit, on ne comprend pas. Imanaou, si le fait que ça soit fait pour décorer, pour orner la vache, pour la faire belle, c'est considéré à cause de ça comme un keli, à falpidelet le une balle, même s'il n'y a pas de battant, c'est en tant que décoration, ça peut servir de décoration même sans battant. Ilav manaou, si tu dis que le fait que ça serve comme tarchit, comme décoration, ça ne suffit pas pour le considérer comme un keli, une balle machvele mana. Est-ce que le fait qu'il y ait un battant, ça va en faire un keli? C'est-à-dire que la Gemara comprend ici que la seule raison pour laquelle on pourrait considérer ça comme un keli, c'est par rapport au tarchit, par rapport à la décoration. Donc la Gemara demande si c'est une décoration, ça peut être une décoration même sans battant. Et si c'est pas une décoration, c'est-à-dire que si le fait que ça soit une décoration ne suffit pas pour que ça reçoive la Touma, parce que, comme on avait dit, que un animal, même quelque chose qui sert à la décorer, ne reçoit pas la Touma, n'est pas considéré comme un Keli. Donc même s'il y a un battant, ça devrait pas être considéré comme un Keli. Agmara répond, si, effectivement, le fait qu'il y ait un battant, ça peut en faire un Keli. Pas en tant que Tarchit, mais en tant que Keli, parce que ça devient un objet d'utilisation. Ça veut dire que comme ça sert à faire du bruit, à ce que l'homme puisse repérer, savoir où se trouve l'animal, donc c'est considéré comme un objet utilitaire pour l'homme, et c'est pour ça que c'est considéré comme un Keli qui reçoit la Touma. Qui est des Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, comme ce que Rav Shmuel Bar Nachmani a dit dans Rabbi Yonatan, Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Minayin le Mashmi'a Kol Beklei Matachot Shehutameh, parce que Rabbi Shmuel Bar Nachmani a dit dans Rabbi Yonatan, d'où est-ce qu'on sait que quelque chose qui fait du bruit dans les objets en métal, que c'est tamé, que ça reçoit la Touma, chez Nehemar, parce qu'il est écrit dans le Passouk, Kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Et la suite du Passouk, c'est Ach bemen ida itrata. Donc on parle d'objets métalliques qu'il faut cachériser, les objets qui appartenaient au goyim. Donc il faut d'une part leur faire liboun, asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh, mais la suite du Passouk, c'est Ach bemen ida itrata, c'est-à-dire qu'il faut leur faire la tvila. Donc, on voit qu'ils peuvent recevoir la Touma. Donc, c'est-à-dire que il faut l'iboun par rapport aux absorptions d'aliments interdits que ça a pu absorber. Mais d'autre part, il faut aussi leur faire la Tvila par rapport à la Touma. Donc, on voit que ça reçoit la Touma. Et qu'est-ce qu'on apprend? Où est-ce qu'on voit ici que même quelque chose qui est destiné à faire du bruit, ça reçoit la Touma? Parce que c'est écrit Kol Davar, Afilu Dibur Yavo Baesh. Donc, même quelque chose qui est fait pour faire du bruit, il faut le cachériser en lui faisant la tvila, c'est-à-dire qu'il peut recevoir la Touma. Donc, comme c'est écrit dans la suite du passouk, Ach bemen ida itrata, qu'il faut lui faire la tvila. Le Gemara demande, Bemay ou Kimta? Bedelet leinbal. Alors, comment est-ce que tu as interprété notre braïta, la braïta précédente, qui disait que ça ne reçoit pas la Touma? Tu as dit qu'il s'agissait d'une cloche qui n'a pas de battant. Imam et Siyatam. Alors, si c'est comme ça, dit le cas suivant, le cas du milieu de cette braïta, quand on parle d'une cloche, de la cloche de l'esclave, donc la cloche d'un homme, pas d'un animal, c'est écrit Velo Bezouk Shevet Savaro. Il peut pas sortir avec une cloche autour du cou, Avaliotse ou Bezouk Shevet Souto, mais il peut sortir avec une cloche qui est attachée à son vêtement. Veze Veze Mekablin Touma, et toutes les deux reçoivent la Touma. Idelet Linbal Mimekablé Touma. L'Agmara demande, mais s'il n'y a pas de battant à cette cloche, est-ce que ça reçoit la Touma? Uruminu, l'Agmara objecte. A aussi zagin le marteshet ve la harissa ve la mitpachot sfarim ou le mitpachot tinokot yesh la im bal tmein en la im bal teorin. Donc la Mishnah dit, la Braïta pardon, dit que si on fait des clochettes pour la marteshet, c'est là où on pilait les épices, et ils mettaient des clochettes parce que c'est écrit à kol yafel emesavim, le son c'est bon, ça améliore les épices. Donc les clochettes qu'on fait pour la marteschette et pour le berceau des bébés, pour les endormir avec le son des clochettes, ou le mitpachot sfarim, et pour les couvertures des sfarim, ils mettaient des clochettes aux couvertures des sfarim pour que lorsque le rav, le maître arrive pour enseigner, quand il arrive au Beth Knesset avec les sfarim, ça fait du bruit, ça tinte, et les enfants l'entendent arriver et viennent, se réunissent pour étudier, ou le mitpachot tinokot, et pour les foulards des enfants qui portent autour du cou. Et la Braïta dit que s'ils ont un battant, c'est tamé, s'ils n'ont pas de battant, ils sont tahor. Ça veut dire que tant qu'on ne leur a pas fait de battant, c'est tahor, le keli n'est pas terminé, et donc il est tahor. Nitlouin baléhen, adain tumatan aléhem. S'ils avaient un battant mais qu'on l'a enlevé, ils conservent leur Touma, c'est-à-dire que s'ils étaient tamés, ils deviennent pas tahor, et ils peuvent encore recevoir la Touma. Donc on voit que il faut qu'ils aient un battant pour recevoir la Touma. Sans battant, ils ne reçoivent pas la Touma. Donc comment ça se fait que dans la Braïta, on a dit que même d'après l'interprétation qu'on a donnée, qu'il s'agissait d'une cloche sans battant, donc c'est écrit que même une cloche sans battant, elle reçoit la Touma si c'est la cloche des hommes, la cloche des esclaves. Elle m'a répondu, Anemile Betinok, Delekala, Videle. Quand est-ce qu'on a dit que c'est seulement s'il y a un battant que ça reçoit la Touma? c'est quand c'est une cloche qui est faite pour les enfants, et donc c'est fait pour faire du bruit. C'est-à-dire pour pouvoir savoir où sont les enfants. Donc on leur mettait une cloche qui, avec un battant, donc qui tintait, pour savoir où ils se trouvent. Aval gadol tarchit oulé, afalgav delet leinbal. Mais si c'est la cloche d'un adulte, c'est comme un bijou, c'est quelque chose, un ornement, même si ça n'a pas de battant, même si ça ne fait pas de bruit, donc c'est un keli en tant que tel, et ça reçoit la Touma. L'Agmara revient maintenant sur la dernière braïta qu'on a citée, à Marmar, donc le Tana de la braïta a dit, Nitlu in baleem adain tumatan aleem, que s'ils avaient un battant, mais qu'il a été enlevé, ils conservent quand même leur Touma. L'Agmara demande, lemaï chazoum, mais à quoi ça peut servir s'il n'y a pas de battant? Puisqu'on a dit que il s'agit de cloches dont le but est de faire du bruit. Donc, si elles ne peuvent plus être utilisées pour leur utilisation d'origine, donc pour faire du bruit, ça ne devrait plus être tamé. Ça devrait perdre la Touma, ça devrait plus pouvoir recevoir la Touma. Donc, comment se fait-il, à quoi ça peut servir et pourquoi ça continue à recevoir la Touma? Amar Abaye, Abaye a dit, Oil sha'idiot echol achadiro, comme même quelqu'un d'ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un artisan, qui n'est pas un spécialiste, peut remettre le battant, c'est facile à remettre. Donc, même s'il a été enlevé, on considère que c'est encore un keli parce que ça peut se remettre facilement. Metiv Rava, Rava objecte, c'est écrit Azug Veinbal, une Mishnah qui dit que Azug Veinbal Chibour, que la cloche et le battant sont considérés comme Chibour. C'est-à-dire que c'est considéré comme un seul objet. C'est-à-dire le rattache ensemble est considéré comme une véritable attache. Et donc c'est considéré comme un seul objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la Touma touche l'un des deux, ça rend tamé aussi l'autre. Si la Touma a touché la cloche, le battant devient tamé, et inversement. Et également par rapport à l'aspersion de Médida, s'ils étaient tamémètes, et qu'on les asperge avec l'eau de l'eau mélangée avec la cendre de la para-adouma, si cette eau qu'on a aspergée est tombée sur l'un des deux, ça rend aussi tahor l'autre. Qu'est-ce qu'on voit en tous les cas d'ici? On voit que si la Mishnah elle considère que elle appelle ça un chibour, ça veut dire que s'ils sont séparés, donc ils ne sont plus considérés comme un keli. Ça veut dire que c'est un ensemble. Si la Mishnah nous dit que c'est un ensemble, c'est un chibour, ça veut dire que s'ils sont séparés, ils ne sont plus et ils ne sont plus tamés. On comprend que c'est plus un objet, donc ça ne reçoit plus la Touma. Et si tu veux dire que ce que cette Mishnah veut dire, c'est que même s'ils sont pas attachés ensemble, c'est comme s'ils étaient attachés, c'est-à-dire qu'ils continuent à recevoir la Touma. Ve'atania, pourtant en enseignant la Braïta, c'est une Braïta qui a été enseignée dans le contexte de la Mishnah qui vient d'être citée. Misporet shel prakim et zemel shel ritni chibur la Touma ven chibur la Hazar. Donc on avait déjà vu ça plus haut dans la Gemara. Cette Braïta dit que des ciseaux qui sont faits de deux morceaux, c'est-à-dire qui peuvent être démontés et remontés, et Izemel Shelritni, c'est la lame du rabot, c'est un chibour par rapport à la Touma et pas un chibour par rapport à la Hazar. Donc c'est-à-dire que les deux sont faits de deux pièces qu'on fixe ensemble pour pouvoir les utiliser. Donc pour pouvoir utiliser les ciseaux ou le rabot, il faut que les deux parties du ciseau soient réunies ou que la lame soit fixée au rabot. Et la Braïta nous dit que c'est un chibour par rapport à la Touma. Ça veut dire que ils reçoivent la Touma si l'un des deux a été touché par la Touma, a été au contact de la Touma, même si l'autre n'a pas été au contact avec la Touma, mais il reçoit la Touma. Et c'est pas considéré comme un chibour par rapport à la Hazara, c'est-à-dire que si on a aspergé sur l'un des deux de l'eau de la para-adouma, ça ne purifie pas l'autre, donc s'ils étaient tamémètes. Ve'amrinan mimanafchar. On a posé la question à propos de cette braïta, mais on comprend pas quoi qu'il en soit. Ichibourou afilolaza, si tu considères que c'est un chibour, que c'est considéré comme un seul objet, même par rapport à l'aspersion, ça devait être considéré comme un seul objet. Pourquoi on dit que c'est pas un chibour par rapport à l'hasard? Ve'ilo chibourou, afilu letuma namilo. Et si c'est pas considéré comme un chibour, on considère pas ça comme un seul objet, même par rapport à la touma, ça devrait pas être considéré comme un chibour. Donc pourquoi il y a une différence entre la Touma et la Hazara? Ve'amar Rabba, et Rabba a expliqué, Dvar Torah b'shat melacha chibur ben le Touma ben le Hazara, shelo b'shat melacha eno chibur, lo le Touma velo le Hazara. Mina Torah, en fait, si c'est pendant qu'on l'utilise, c'est considéré comme un chibur, soit pour la Touma, soit pour le Hazara. Et quand on n'est pas en train de l'utiliser, même si on ne les a pas encore séparés, mais ce n'est pas considéré comme un chibour ni pour la Touma ni pour la Hazara, parce qu'en fait, quand on ne les utilise pas, normalement, on les démonte, on ne les laisse pas ensemble. Et les Chachamim ont fait une Zera pour la Touma quand on n'est pas en train de les utiliser à cause de la Touma pendant qu'on les utilise. Donc, la Khumra, les Chachamim ont été Mahmir, que même quand on n'est pas en train de les utiliser, on considère que c'est un chibour et donc qu'ils reçoivent la Touma l'un avec l'autre. Parce que Mina Torah, ça reçoit la Touma Beshat Melacha pendant qu'on les utilise. Ve'alaza, Shei Beshat Melacha, Mishumaza, Shelo Beshat Melacha. Et ils ont également fait une Xera sur la Hazara quand c'est au moment où on les utilise que ça ne sert pas, la Hazara de l'un sur l'un ne sert pas à purifier l'autre, à cause de la Hazara qui se fait Shelo Beshat Melacha, pas pendant qu'on les utilise. Où là, c'est pas un chibour mina Torah, et donc l'aspersion sur l'un ne permet pas de purifier l'autre. Donc c'est-à-dire que, en fait, tout ça, c'est une Xera des Chachamim. Et en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, puisqu'on parle de dans cette Braïta, on a fait la différence entre Beshat Melacha et Shelo Beshat Melacha, mais toujours quand ils étaient fixés ensemble. Donc, puisque cette Braïta se rapporte à la Mishnah précédente, qui parlait de la cloche et du battant, qui était un chibour, donc ça veut dire que là-bas aussi, on parle dans le cas où ils sont effectivement ensemble et pas dans le cas où ils sont séparés. Donc, on revient à la question précédente. Pourquoi est-ce qu'on a dit que dans la Braïta plus haut, on a dit que même si le battant était enlevé, ça continue à recevoir la Touma? Pourquoi à ce moment-là, ça reçoit la Touma? Puisque quand ils sont séparés, ils ne devraient pas recevoir la Touma, puisque ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser tels quels. Et là, Amar Rava, donc Rava répond à cette question, il dit Oil veraou la kishwa al gabé cheres. Il dit parce que une cloche, même sans battant, on peut l'utiliser, on peut faire du bruit, on peut la faire tinter en la cognant contre de l'argile. Donc ça n'a pas complètement perdu son utilisation. C'est vrai qu'elle n'a pas de battant, mais on peut quand même encore l'utiliser un petit peu. Et donc tant qu'il y a une utilisation possible, elle ne perd pas sa touma, elle ne perd pas son statut de Keli. Et Rachid dit, c'est comme un ustensile qui a été percé. Tant que on peut mettre quelque chose à l'intérieur de ce Keli, même si c'est pas ce pourquoi il était destiné au départ, parce que ce qu'on mettait au départ, on peut plus le mettre parce que ça va sortir par le trou, mais si on peut mettre des fruits plus gros, donc qui vont pas sortir, puisqu'il y a une utilisation possible à ce Keli, il conserve son statut de Keli tant que il n'y a pas un trou tellement grand qu'on ne peut plus l'utiliser du tout. Donc là aussi c'est pareil, tant qu'il y a une utilisation possible à cette cloche, même sans battant, ça continue à recevoir la Touma. Kol Touv.